passante.
La bande passante. Nicolas Benita, Alain Pilot.
LBP à la BNF ce soir, ou la bande passante à la Bibliothèque Nationale de France à Paris, où Édith Piaf, la chanteuse française la plus populaire au monde, qui aurait eu 100 ans cette année, fait pour la première fois son entrée par le biais d'une exposition ne faisant que renforcer la place qu'elle a au Panthéon de la chanson. Pour évoquer la môme, Bertrand Bonnieux, Joël Hudvol, les deux commissaires de l'exposition qui se tient à la BNF jusqu'au 23 août, et Jean Maresca, auteur de deux biographies d'Édith Piaf, dont une traduite en 6 langues. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Un mot chacun pour définir Piaf. Je sais que l'exercice n'est pas facile. Qui commence? Bertrand Bonnieux.
Roqueuse.
Joël Hudvol.
Rire.
Jean Maresca.
Mémoire collective.
Vous avez eu droit à deux voix.
Oui,
vous avez
pris la forme de j'avais demandé.
Vous avez bien fait. Avec vous, nous allons revenir sur Édith Piaf, la chanteuse, Édith Piaf, l'amoureuse, Piaf, la légende, et Édith, la femme du peuple, les quatre thèmes de cette expo Piaf. Soyez les bienvenus dans votre bibliothèque et sa musique emblématique à ses 18 étages.
Je crois que les bonnes choses arrivent si on le désire. Je crois qu'on peut sortir de n'importe quelle mauvaise situation.
L'ouvrier n'achève pas son travail. Il dit « Oh, ça ira ». Le paysan répond « Ça ira ». Ça ira. À force de dire « Ça ira », je crains qu'un jour il ne le chante. Ça ira. Ça ira, ça ira, ça ira, ça ira.
Et qu'ils entretiennent des cadres. La droite sans enfants nous écrase. Assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les arrivées peuvent à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les arrivées peuvent, on les prendra.
Édith Piaf chantant en 1954 la Carmagnole dans le film Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry.
Ça ira. La Carmagnole, c'est une chanson différente.
C'est bien, vous avez raison, je vous avais dit de me reprendre, donc vous êtes là pour ça. C'est donc Guitry qui va lui confier la séquence de la fille du peuple révolutionnaire, la bonne copine plus que la farouche camarade. Joël Hudvol, vous êtes commissaire général directeur du département des arts du spectacle à la BNF. Bertrand Bonnieux, commissaire conservateur au département de l'audiovisuel de cette même BNF. Et Jean Maresca, vous avez été notamment directeur artistique de Jean-Jacques Goldman, autre grande figure de la chanson française et auteur de plusieurs ouvrages sur ce thème, dont deux biographies de Piaf. Joël Hudvol, Bertrand Bonnieux, pourquoi Édith Piaf fait-elle son entrée à la BNF alors qu'elle était plus reconnue comme une interprète qu'une auteure, même si on lui doit La vie en rose, L'hymne à l'amour et plus de 80 textes. Joël Hudvol.
Piaf a pleinement sa place à la BNF comme de nombreuses figures de la culture populaire, parce que la BNF n'est pas simplement le lieu de la culture savante et littéraire.
Ce qu'elle est pleinement,
mais elle est aussi un grand réservoir, un grand grenier collectif, et notamment pour la chanson. Il y a eu à la BNF en 2003 une grande exposition 100 ans de chansons françaises, donc il était naturel que Piaf y ait sa place, et c'est grâce à notamment aux dons que Daniel Bonnel, la secrétaire de Piaf, a fait à la BNF d'archives qu'elle avait gardées, qu'on a eu l'idée de la montrer au public dans une grande exposition.
Donc c'est une donation au départ, Bertrand Bonnieux.
Oui, c'est un don tout à fait. Donc qu'on a complété avec des pièces qu'on a trouvées dans les autres départements de la BNF, que ça soit le département des estampes et de la photographie. On a une très belle collection d'affiches, hein, d'affiches de maisons de disques, de photographies. Donc le département de la musique également pour les partitions, les petits formats. Département de l'audiovisuel où on conserve bien sûr la discographie d'Édith Piaf, mais aussi des matrices inédites. Département des manuscrits, voilà, quasiment presque tous les départements.
Et les arts du spectacle.
Et les arts du spectacle.
Voilà, où se trouve le fond Piaf.
Voilà.
Vous parliez de chansons de musique, je fais juste une parenthèse pour dire que nous vous avons donné tous nos disques, hein, RFI.
Absolument, oui, on est en train de les traiter à l'audiovisuel.
Merci.
C'est une très belle collection.
Vous les conservez bien. Hein.
Absolument.
Jean Maresca, c'est avec Piaf que le titre de chanteur réaliste va apparaître.
Ah non, il existait déjà auparavant. Les chanteuses réalistes, il y en avait eu bien avant. D'ailleurs, je pense pas qu'on puisse cataloguer Piaf dans les chanteuses réalistes. C'est une chanteuse avant tout populaire, qui a frôlé parfois le mélo, mais c'est pas une chanteuse réaliste, pas du tout.
Son répertoire au début est réaliste, mais après elle s'en détache.
Oui, elle s'en détache rapidement, c'est vrai.
Mais elle ne veut pas justement être cataloguée comme chanteuse réaliste, Bertrand Bonnuel.
Oui, on montre dans l'exposition une coupure de presse où elle crache un peu dans la soupe et elle dit je n'aime plus la chanson réaliste, voilà, je ne peux pas être assimilée à ça. Et très vite, elle fait élaborer, elle élabore son propre répertoire qui est voilà, qui va être beaucoup plus universel, parler de l'amour, de thèmes comme ça.
Moins de pittoresque.
Piaf, la femme du peuple, d'où vient son surnom de la môme Piaf?
Ah bah, Jean Maréchal. Son surnom lui a été donné par, si je ne me trompe, arrêtez-moi messieurs, lui a été donné par Louis Le Play. Il y avait déjà sur le marché, si je puis dire, une môme moineau. Mais vu sa petite taille à elle, qui faisait penser à un petit oiseau, effectivement, maigrichon et chétif, Le Play a eu cette idée de dire, tu seras la môme Piaf.
Alors, lorsque vous avez décidé de monter cette exposition, vous avez décidé de faire 4 thèmes.
Oui, parce qu'il nous a semblé justement que la vie de Piaf était bien connue grâce à des livres comme le vôtre, qu'il y avait déjà des parcours biographiques assez nombreux et on a voulu plutôt entrer par des thèmes de manière à replacer Piaf dans un contexte d'histoire culturelle, d'histoire de la chanson, d'histoire des idées. Donc la femme du peuple, pour montrer quelle figure elle est devenue au fil des années, la voix pour parler de la carrière de chanteuse, l'amoureuse, parce qu'on peut rien, on peut pas parler de Piaf sans parler d'amour, mais c'est aussi une histoire du sentiment amoureux. Et puis, la légende, comment s'est construite de son vivant, et puis jusqu'à nos jours, jusqu'à la môme, qui est peut-être le pic actuel de sa légende.
RFI, la bande passante, Piaf, la gosse du ruisseau qui chante les femmes de la rue.
Allez, venez, Milan, vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle, mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur.
1959, paroles de Georges Moustaki, musique de Marguerite Monod. Je fais toujours attention parce que je suis avec 3 spécialistes de Piaf. J'ai pas faux là.
Non, c'est...
Milord, Édith Piaf, à l'honneur jusqu'au 23 août à la Bibliothèque Nationale de France. Jean Maréchal, une anecdote sur ce titre?
Oui, j'ai une anecdote qui tend à prouver combien Piaf avait du flair, du pif, comme on dit vulgairement, pour renifler la bonne chanson ou la bonne idée de chanson. Un jour, et c'est Georges Moustaki qui me l'a raconté, elle voit Georges et elle lui dit « Georges, il faut que tu m'écrives une chanson, j'ai une idée. Ça se passe à Londres, c'est gris, il y a du brouillard, c'est des amants qui vont se séparer. » Et lui, il écrit tout ça sur le coin de la nappe. Il devait être en train de déjeuner ou de dîner. Il écrit tout ça, puis lui, il rajoute en dessous, comme ça, Milord. Elle lui prend le papier des mains, elle raye tous les autres mots, elle entoure Milord, elle lui dit, elle est là, la chanson.
Les commissaires sont d'accord?
Oui. Et il y a une autre anecdote aussi, c'est que Marguerite Monod avait composé deux musiques pour Milord.
Ah oui.
Voilà.
Exact.
Et donc Piaf et Marguerite Monod avaient une préférence pour l'une des deux musiques. Et Moustaki, qui était dans la pièce à côté, préférait la seconde. Et il a réussi à les convaincre. Et c'est finalement lui qui a eu gain de cause. Oui. Sans doute, il avait senti que la deuxième musique était plus populaire. Et malheureusement, on a la première musique ne nous est pas parvenue, n'est pas parvenue jusqu'à nous. Ça aurait été amusant de l'enregistrer aujourd'hui avec.
Alors, Jolie Vol, on disait que Piaf n'était pas une chanteuse réaliste, mais quand même, ses héros, ce sont les gens de la rue.
Ah, oui, mais des gens de la rue, pas nécessairement de manière très explicite, des gens modestes, des gens simples, des gens populaires, comme disait tout à l'heure Jean Maresca.
Ici, c'est une prostituée et un homme riche, c'est ça, là, dans Milord.
Ah, dans Milord, oui, elle est, effectivement, mais on peut pas dire que ça soit vrai. Il y a des amours plus romantiques, il y a des amours plus violents et qui sont moins caractérisés socialement que ce ne le sont ces chansons du début. Mais c'est vrai qu'elle a toujours gardé cette fibre-là, on va dire, cette fibre populaire, et même dans sa manière de vivre, hein, elle s'est jamais vraiment embourgeoisée, même si elle s'est enrichie et qu'elle a habité les grands appartements dans le 16e, etc. Elle a toujours vécu un peu en bohème, et ça se ressent quand même dans son répertoire, bien sûr.
En roqueuse, comme vous l'aviez dit tout à l'heure.
Oui, absolument. Trop modieux. Parmi ses collaborateurs, donc Georges Moustaki notamment, Michel Vauquer et Charles Dumont.
Quand Charles Dumont et Michel Vauquer m'ont apporté la première chanson, non, je ne regrette rien, ça a été comme une sorte de révélation en moi, c'est-à-dire que j'ai senti qu'il fallait que j'efface tout, que je recommence tout, que je me renouvelle tout à fait, et principalement dans la musique de Charles Dumont, j'ai trouvé ce que je cherchais, le compositeur qui m'aidait carrément à me renouveler tout à fait vers une direction nouvelle qui, je crois, me convient beaucoup plus encore qu'avant.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayé pour toujours, je repars à zéro.
Non, je ne regrette rien. Édith Piaf qui chante Charles Dumont, l'une de ses chansons coup de cœur, comme l'accordéoniste, dont elle ne fera pas modifier une seule ligne. Et en plus, vous connaissez bien la chanson maintenant, vous, Bertrand et Joël, puisque vous avez fait partie de la chorale de la BNF qui a repris ce Non, je ne regrette rien. Du bien coup, vous la découvrez un peu différemment, cette chanson.
Voilà, on nous a mis au pupitre des basses, hein, oui. Des ténors, parce qu'il n'y a pas assez d'hommes dans la chorale. Et donc maintenant, quand on la chantonne, on chantonne notre partie, alors qu'avant, on chantait en imitant la voix,
comment est-ce que ça
la
fait
voix d'alto de Paf. Bah, ça fait doum, doum, doum. Ça, c'est la petit pont musical.
C'était la chorale éphémère de la BNF pour Piaf, et on a chanté pour le vernissage. On est allé chanter aussi aux colonnes de Buren, sous les fenêtres de notre ministre
de la Culture,
et puis pour attirer le public.
Voilà, et la chorale s'est dissoute la semaine dernière, le jour de la fête de la musique.
Ouais. Alors, il y a la fabrique à chansons dans cette exposition. Comment ça se passe, la fabrication d'une chanson de Piaf?
Je pense que on disait tout à l'heure qu'elle avait beaucoup d'intuition. C'est vrai qu'il y a d'abord le choix de la chanson, comme le dit souvent Bertrand, elle ne pensait qu'à ça. Elle pensait qu'à ça en voiture dans la journée. Elle pensait tout le temps à chanter, à choisir des chansons. Et ensuite, elle travaillait. En fait, elle travaillait beaucoup avec ses auteurs, avec ses compositeurs, que ça soit Bono, Charles Dumont, etc. Et on dit même, enfin, Marc Bonnel, qui était était son accordéoniste, dit que elle répétait jusqu'à deux fois son tour de chant avant de jouer le soir, enfin de chanter le soir au Music Hall. Donc il faut pas la voir uniquement appuyer sur son talent disons naturel, mais aussi comme une pro qui bosse, quoi.
Alors, il y a un exemple, c'est la chanson Pas d'âme, qui a mis 10 ans à être finalisée. Elle avait eu l'idée de cette chanson. Alors, c'était au départ le bruit sur un comptoir de zinc. Tadang, tadang, tadang. Et donc, elle a demandé à Henri Comté, c'est Glanzberg qui avait fait la musique. Elle a demandé à Henri Comté de lui écrire des paroles. Ça collait pas. Ensuite, elle a demandé même à traîner, je crois, à deux, trois autres paroliers. Et c'est que 10 ans plus tard, en 51, que Comté a eu l'idée de Pas d'âme, pas d'âme. Voilà, 10 ans pour arriver à finaliser une chanson.
Eh bien, écoutons-la, cette Pas d'âme, pas d'âme par Agnès Garraud, dite La Féline, chanteuse de rock, mais aussi docteur en philosophie, spécialiste de la musique et de ses interprètes, elle a tenté l'expérience avec Antoine Couder. Agnès Garraud s'en sort très bien dans ce Pas d'âme.
Qui m'obsède jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Bien de si loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour, cet air me rendra folle. 100 fois, j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours.
Alors, lorsque je disais tenter l'expérience, c'est la tenter l'expérience du karaoké. Parce que vous avez prouvé, messieurs les commissaires, que vous savez chanter, vous l'avez fait. Donc maintenant, vous faites chanter les visiteurs. Là, c'est La Féline qui chantait Paname. On peut s'enregistrer. Enfin, c'est quelque chose de assez original, ce que vous proposez ici.
Voilà. Il y a une cabine de karaoké. Il y a le choix entre 6 chansons. On s'enregistre et on s'envoie la chanson à son adresse mail pour la recevoir chez soi.
Pour la postérité.
Et la conserver.
La proposer à des maisons de disques.
Oui. Voilà, c'est pas le seul élément audiovisuel hein, qu'il y a dans l'exposition.
Il y a les audioguides aussi.
Voilà, il y a l'audioguide dans lequel il y a une visite guidée, bien sûr, mais dans lequel il y a aussi une 50aine de chansons, des chansons chantées par Piaf, mais aussi des reprises, parce que ça nous a semblé important de faire entendre une grande variété de reprises, rock, jazz, rap et autres. Et puis, il y a le son d'un certain nombre d'audiovisuels, enfin d'extraits d'émissions de radio et de télévision.
Voilà, et la visite guidée est en espagnol, en anglais et en japonais.
Georges Moustaki, qui rapprochait la compositrice Marguerite Monod de Kurt Weill, il remarquait qu'elle avait des mélodies sur 2 accords, mais que c'était le choix de ses notes, la justesse de l'inspiration qui faisait la différence. Exemple.
Moi j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins portant le soleil. Ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air la chambre d'hôtel au papier jauni. Et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait tant de soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi j'essuie les verres au fond du café.
Un passage de Les Amants d'un jour, Édith Piaf, musique de Marguerite Monod, paroles de Claude Delecluse et Michel Senlis. À suivre, juste après avoir fait le tour du monde de l'actualité en 3 minutes depuis nos studios, retour à la BNF dans le 13e arrondissement pour la suite de cette visite de l'exposition Piaf. Et vous ne regretterez rien. Tout de suite.
Musique. 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 Musique.
Retour de la bande passante sur RFI, toujours installée à la Bibliothèque Nationale de France pour une visite guidée de l'exposition Piaf. Nos trois guides sont Jean Maresca, spécialiste de la chanson et de Piaf notamment, Bertrand Bonnieux et Joël Hudevol, les deux commissaires de cette expo qui se tient à la BNF jusqu'au 23 août. Rebonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir. La môme qui fait son entrée dans cette institution qu'est la Bibliothèque Nationale de France, rêvons un peu, où après Paris cette expo pourrait-elle s'envoler? Bertrand ou Joël?
Dans les, peut-être dans les contrées où elle est, où elle s'est pas rendue de son vivant, de son vivant, elle a chanté aux États-Unis, en Amérique du Sud, aussi en Amérique latine, dans le nord de l'Europe, un peu au Maghreb, mais pas en Asie, par exemple.
Oui, elle est très aimée en Asie, donc on aimerait beaucoup qu'elle puisse voyager ailleurs qu'en France, voilà, peut-être au Japon, en Chine, et puis pourquoi pas retourner au Brésil ou aux États-Unis, bien sûr.
À bon entendeur. Avant les infos, nous avons évoqué Edith Piaf, la femme du peuple, puis la chanteuse. Dans cette seconde partie, c'est Piaf, la légende, et Edith, l'amoureuse dont il sera question. Soyez de nouveau les bienvenus dans votre bibliothèque et sa musique historique à ses 18 étages.
Je suis toujours amoureuse, je ne connais pas de moment où je ne suis pas. Ceux qui sont dégoûtés de l'amour parce qu'ils ont eu des déceptions, ce n'étaient pas des vrais amoureux. Même si on a un travail qui vous passionne, si on n'a personne à qui l'offrir, ce travail, je pense qu'il devient inutile. L'un ne va pas sans l'autre. Quoi.
La bande passante.
Le ciel bleu ne peut s'effondrer et la terre vient s'écouler. Je m'abandonne si tu m'aimes, je m'abandonne du monde entier. Tant que l'amour inondera mes mains, tant que mon corps frémira sous tes. Que tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais.
L'hymne à l'amour, écrite par Edith Piaf, composée par Luigi. L'amour, le thème principal de plus de 70% des 261 chansons réunies dans les œuvres intégrales. Et ce matin, Bertrand Bonnieux, en me faisant visiter l'expo, m'a dit non, pas 70%, mais pas plus de 50%, le thème de l'amour. Combien d'hommes dans sa vie, Jean Maresca?
Oh! On ne sait pas. Entre l'avéré, les légendes, les passades de très courte durée, les amours qui auraient pu durer, Marcel Cerdan, si il n'y avait pas eu le tragique accident que l'on sait, des dizaines d'hommes dans sa vie. Elle avait besoin, comme elle le dit, elle avait besoin d'être amoureuse en permanence. Il fallait qu'elle soit amoureuse. Donc dès qu'un amour commençait à dépérir, il fallait qu'elle en retrouve un autre. C'est comme une plante qu'on arrose pour pouvoir refleurir à nouveau.
Alors elle écrivait aussi beaucoup de lettres d'amour, quasiment tous les jours. On peut retrouver quelques-unes de ses correspondances dans votre exposition?
Alors, il n'y a pas beaucoup de lettres d'amour dans l'exposition. On n'en a pas tellement dans les collections. On évoque ses amants et ses maris.
Les lettres de ses amants, quand même.
Alors, voilà. Il y a par contre des lettres. Pas des lettres d'elle à ses amants, mais des lettres de Raymond Asseau.
Et pourquoi pas d'elle?
En fait, dans les lettres d'elle, on a privilégié celles qu'elle écrivait à Jacques Bourgeat, qui était son confident et qui se trouve un des trésors du département des manuscrits de la bibliothèque, où il y a la première lettre connue de Piaf, une lettre de 1936 sur laquelle elle dessine un petit oiseau, un petit Piaf qui porte une lettre. Donc justement, on a choisi plutôt de montrer ça.
Elle n'écrivait pas bien?
elle écrit de mieux en mieux en fait. Elle est pratiquement pas allée à l'école, hein, elle était une autodidacte, si on peut dire. C'est justement sous l'influence de Jacques Bourgeat, qui est une sorte de poète, un érudit, qu'elle a progressivement écrit de mieux en mieux. Mais on peut dire dans cette première lettre, justement, où elle fait plein de fautes d'orthographe, où la construction est un peu bancale, il y a déjà un style assez trempé, assez drôle, et qui lui correspond bien.
La Trembogneux, elle chante l'amour alors que les intellectuels n'y croient plus.
Ça, c'est la question piège. Les intellectuels de quelle époque?
Les intellectuels de son époque.
De son époque. Oui. Non, bah, je crois pas. Je crois pas.
C'est vrai qu'elle a une vision de l'amour très romantique au fond, très passionnée, à un moment où peut-être
les intellectuels de l'époque, je pense, disent ne pas y croire. Mais je pense que c'est une posture plutôt qu'autre chose. Voilà. L'amour reste universel, éternel, si on peut dire. Après, on rentre dans les jeux de l'amour ou pas. Mais je pense que les intellectuels dont vous parliez, c'était plus... moi, je suis pas comme les autres.
Elle a chanté toutes les tonalités de l'amour, hein, parce qu'elle a chanté la fatalité de l'amour.
La séparation. Hein,
la séparation irréversible. L'extase amoureuse. Ça, c'est la majorité de ses chansons. Il y en a énormément, je crois. Plus de 20%, vraiment les premières amours, l'extase amoureuse, mais elle a aussi beaucoup chanté les désillusions amoureuses, la mélancolie, les amours qui s'effilochent.
Elle a chanté aussi la fugacité des amours, parfois une rencontre d'un soir qui n'a pas de lendemain, elle l'a chanté ça aussi.
La thématique amoureuse de cette exposition, elle est très bien faite parce qu'elle n'est pas que rose, elle est rose aussi un peu, mais il y a des photos, des regards en fin de compte qui sont accrochés comme ça dans des lanternes, des énormes lanternes. Qu'est-ce qui a fait cette scénographie de cette exposition?
Alors la scénographie de l'exposition, on la doit à l'agence Je Formule et à ces deux artistes, Juliette Dupuis pour la scénographie et Estelle Maugra pour le graphisme. Et c'est vrai que ça compte beaucoup dans une exposition sur le spectacle, qui est une dimension spectaculaire. Et on a vraiment parlé avec elle pour qu'il y ait des atmosphères différentes, des couleurs différentes, des formes différentes.
Et donc, dans
tout le parcours, en fait, les quatre grandes parties nous emmènent d'abord dans le gris bleu parisien, le pavé parisien, le rouge de la scène, du music hall, puis le rose, on n'a pas fait dans l'originalité, mais il le fallait pour l'amour. Et enfin, pour la légende, plutôt un bleu nuit avec des dorés qui montre bien cette atmosphère dans laquelle elle est aujourd'hui.
La bande passe par la BNF aujourd'hui pour l'Expo Piaf.
Les amants de Paris couchent sur ma chanson. Les amants s'aiment pas leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Ça fait des tas de printemps et le printemps fait l'amour. Mon couplet s'est perdu sur les bords d'un jardin. Les amants de Paris m'ont volé mes chansons. À Paris, les amants ont de drôles de façons. Les amants de Paris se font à Robinson. Quand on marque des points à coups d'accordéon, les amants de Paris vont changer de saison. En traînant par la main mon petit grain de chanson.
Édith Piaf, Les Amants de Paris, paroles Léo Ferré, musique Léo Ferré et Eddy Marnay. On parlait tout à l'heure de ces différentes formes d'aborder l'amour, mais il y a eu deux périodes apparemment dans cette thématique amoureuse. Est-ce que c'est vrai? Avant 45, elle parle plutôt des amours tristes, et après 46, c'est plutôt les amours heureuses.
Oui, oui.
Ah, vous avez l'air. Non, vous vous sentez pas obligé, Bertrand Bonnieux.
Hein. Non, c'est pas moi le spécialiste. Non, je suis pas d'accord. D'accord. Non, c'est. Je pense que c'est un peu.
Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas aussi. C'est pas tranché comme ça. Mais il y a quand même une évolution.
C'est ce que j'ai lu dans votre catalogue.
Voilà. Disons qu'il y a une évolution. C'est vrai que les amours qu'elle chante au début, c'est plutôt des amours où la femme est dominée. Enfin, il y a une virilité, celle du.
C'est tatoué, légionnaire. Hein,
voilà. Et voilà. Et même dans sa vie. Elle était quand même dans ce rapport-là. Hein. Raymond Asseau est un homme qui mène.
Il l'appelle Didou quand même. Hein. C'est
oui,
mignon.
Mais enfin, c'est quand même lui qui décide, qui l'envoie à la campagne quand il en a marre, etc. Et ensuite, on peut dire qu'elle est plus dans une conception, à la fois dans ses chansons, mais aussi dans sa vie, plus libre, plus assumée, de femme qui a un amant puis un autre, hein, n'hésite pas à avoir des amants plus jeunes qu'elle. Donc, faut pas en faire une 68 arde, hein. C'est pas du tout le genre. Mais quand même, c'est vrai qu'il y a une évolution, finalement, dans sa manière de concevoir l'amour.
Vu comme Bertrand ça, je suis d'accord.
Bertrand Bonnieux, vous me disiez, quand on a visité cette exposition ensemble ce matin, que non, il n'y avait pas 70% de chansons sur l'amour, mais pas plus de 50%. Et vous avez fait le compte, c'est ça, vous-même?
Oui, je me suis
juste hier soir, dans la nuit.
Dans une espèce de comptabilité, j'en ai pas encore parlé d'ailleurs à Joël, et vraiment c'était une surprise parce que je pensais qu'on descendrait pas en dessous de 50% de chansons sur l'amour, mais il y a aussi beaucoup d'autres thématiques dans les chansons de Piaf. Il y a une fibre sociale, hein, il y a des chansons sur les voyous, la délinquance, la prison, les classes sociales, le racisme, etc. Il y a des chansons avec, disons, une veine un peu plus historique, des chansons sur Paris, sur l'histoire de France. Il y a une veine un peu médiéval aussi, avec des chansons sur les prisonniers, le prisonnier de la Tour, ou
prison de Nantes.
Prison de Nantes, oui. Et puis elle a repris du folklore, hein,
bien sûr.
Incité par là, quand elle travaillait avec les compagnons de la chanson. Donc voilà. Et puis il y a aussi, j'ai trouvé.
Et sur l'amitié aussi.
Sur l'amitié, ouais. Voilà. Mmh. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait autour de 7-8% de son répertoire qui sont des chansons sur la chanson. C'est-à-dire des chansons qui parlent de la chanson. Voilà, pas d'âme, c'est terre qui m'obsède.
Voilà, excusez.
Voilà, les discuser. Voilà, donc c'est beaucoup plus varié qu'on pourrait le penser. Mais c'est assez difficile à trouver, parce que si vous prenez Milord, est-ce que c'est une chanson sur la prostitution ou est-ce que c'est une chanson sur Londres? C'est un peu les deux.
Oui,
voilà,
oui.
Donc,
Et c'est une chanson sur l'amour aussi.
Mais ça reste une chanson sur l'amour. L'homme à la moto reste, même mal autour du contexte, ça reste une chanson d'amour.
Voilà.
Avec un contexte totalement rock'n'rollesque, une fois de plus. Mais c'est une chanson d'amour quand même, cette pauvre fille abandonnée par ce motard fou. Donc il y a de l'amour partout chez Piaf, je crois, enfin beaucoup.
Jean Maresca, aujourd'hui Piaf est devenue une légende. Comment expliquez-vous qu'elle ait réussi à éclipser toutes les autres interprètes de sa génération et voire les précédentes?
Alors j'ai un point de vue extrêmement précis là-dessus. Il y a eu des milliers de tentatives, je parle d'interprètes féminines, on va parler d'interprètes masculins, d'interprètes féminines, de réinterpréter Piaf. Ça ne fonctionne jamais, jamais, jamais. Il manque une chose, à mon goût, il manque une chose essentielle, ce qu'on appelle vulgairement la moelle. Toutes les chanteuses qui s'y sont essayées n'ont pas cette chose unique qu'elle avait. Je vais faire un parallèle très rapide avec le blues. Tous les bluesmen blancs, si talentueux soient-ils, de Clapton à... Rien ne vaut un pauvre noir du Delta jouant sur sa 6 cordes, 5 cordes, 7 cordes, avec rien pour l'enregistrer. Il manque la moelle.
Voici maintenant un petit pot pourri des anglo-saxons qui sont essayés,
ah, oui.
Et plutôt avec talent.
And hold me fast. The magic spell you cast. This is love the unrose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see la vin en rose.
Prends dans ses bras, elle me parlait tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.
La vie en rose par Louis Armstrong, Grace Jones et Iggy Pop. Est-ce que c'est ce qui fait aussi dire que Piaf est entré dans nos cœurs et dans la légende ?
Je pense que les reprises, en tout cas, ont été sont un véhicule important pour l'appropriation par de nouvelles générations du répertoire de Piaf. Alors, elle montre une chose, c'est que quelles que soient les déformations, les voix, le manque de cœur ou le talent, le répertoire tient le coup. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la vie en rose, on pourrait la chanter n'importe comment, ça tient quand même.
Donc, Jean-Marie,
je crois que c'est surtout cela qui a présidé au choix, par exemple, de Louis Armstrong de refaire cette chanson. C'était, je pense, avant tout la qualité intrinsèque de la chanson, la mélodie, avant même l'amour qu'il pouvait avoir pour Piaf. Je pense, contrairement à bon nombre de chanteuses françaises qui ont mis en avant leur dévotion pour l'artiste en essayant de s'approprier son répertoire. C'est deux choses différentes. Les Américains sont beaucoup plus pragmatiques là-dessus. C'est une bonne chanson, on l'a fait. Ah, c'est Edith Piaf, formidable.
Ouais, cela dit, il y a des reprises comme celle de Catherine Ringer ou de Brigitte Fontaine où il y a quand même un peu de moelle.
Leur moelle à elle. C'est bien, c'est une bonne chose. Elles en ont déjà. Contrairement à d'autres, elles en ont.
Vous êtes déterminé.
Je ne citerai pas de nom.
Pourquoi on n'entend pas Iggy Pop dans l'expo?
Il fallait faire des choix, on voulait faire figurer dans cette exposition absolument tous les genres musicaux. Il y a même un morceau de musique classique, puisque Francis Poulenc a écrit une improvisation pour piano en hommage à Edith Piaf en 59. Donc on voulait qu'il y ait du rock, certes, mais aussi du jazz, qu'il y ait un crooner, qu'il y ait du rail, qu'il y ait du rap, qu'il y ait du disco. On voulait exclure aucun genre musical, donc le choix a été très difficile.
Mais sur le plafond du karaoké, on peut voir une sorte de constellation avec toutes les ramifications possibles, on va dire, du répertoire et du talent de Piaf.
Voilà, il y a des proximités, il y a des petites étoiles, le cabaret berlinois, c'est pas si loin de Piaf, les rockeuses des années 70, la Janis Joplin, ou même quelqu'un comme Véronique Sanson, c'est pas des artistes si éloignés de Piaf que ça.
Piaf la légende, Piaf l'international.
I'm for the grief doesn't last. It is gone. I've forgotten the past and the memories I had. I no longer desire both the good and the bad. I have flung in a fire, and I feel in my heart that a seed has been sown. It is something quite new.
Piaf, in English, you were laughing, messieurs les commissaires. Vous êtes en train de rigoler en écoutant ces morceaux d'anthologie en version anglaise.
Yes, it's quite funny, non?
C'est comment la carrière internationale d'Edith Piaf? Comment ça se passe? Ça commence aux États-Unis?
Ça commence en 47. Enfin, il y a quelques tournées, on va dire, en Europe avant, mais le grand pas, c'est effectivement 47, New York, mais ça aurait pu tourner court, en fait.
On l'apprécie pas tout de suite.
On préfère les bons gars, un peu scouts, les compagnons de la chanson. Et elle, la petite bonne femme, tout en noir, alors qu'on s'attendait à voir arriver une Parisienne beaucoup plus sexy, elle a du mal à passer. Et justement, c'est une question de langue aussi. Et c'est ce qu'elle a compris assez vite, c'est que en chantant des chansons à texte uniquement en français, en fait, elle passait pas la rampe. Et c'est pour ça qu'elle s'est mise à faire traduire les chansons, à chanter certaines de ses chansons en anglais. Et même quand elle chante pas en anglais ou en espagnol, elle introduit ses chansons par des petits résumés où elle dit voilà ce qu'on va entendre.
Et on les voit, ces petits résumés.
C'est très touchant, c'est vraiment des petites fiches dactylographiées. On l'imagine regardant son petit résumé avant d'entrer en scène.
Jean-Maresca ?
Oh ben, rien à dire. Moi, je suis. Elle avait une. Par la suite, c'est devenu une espèce de mine d'or pour elle, les États-Unis. Donc, dès que le compte en banque en France commençait à baisser un peu, elle disait à Loulou Barrier, trouve-moi des engagements aux USA, trouve-moi des engagements à New York. Et elle partait aller faire le plein de monnaie à ce moment-là. C'est vrai, je crois.
On vous écouterait pendant des heures. Je pense qu'on va faire 10-15 autres émissions ensemble.
Avec plaisir.
Avant de se quitter, en deux mots aussi, qu'est-ce que vous allez garder de Piaf, les uns les autres?
Une vie de travail.
Et moi, j'ai dit rire au début, et c'est une chose qu'on a découverte, je crois, avec Bertrand aussi pendant l'exposition. C'est qu'elle a des chansons tragiques, mais c'était une femme qui aimait rire dans la vie, qui aimait être avec des amis.
C'est ce qui ressort de l'expo. Ouais.
Voilà. Et ça, on a voulu le montrer aussi. C'est partie d'elle, vraiment.
Jean-Maresca ?
Oui, moi, je serais assez d'accord avec ça. Pour parler vulgairement, les gens qui lui ont été proches m'ont dit que c'était une grosse déconneuse.
Merci infiniment Bertrand Bonnieu, Joël Hudevol et Jean Maresca. Piaf, l'expo, la BNF, c'est jusqu'au 23 août à Paris, entrée porte Est. On se quitte comme on se quitte également dans l'expo jusqu'au 23 août, c'est ça, hein? Et le catalogue également disponible donc ici à la BNF, le catalogue de l'exposition. On se quitte donc comme on le fait à l'exposition ici, avec Je m'en fous pas mal. Il y a les bords de la Seine et puis il y a le bal qui vous flanque des frissons partout. Il y a des étoiles qui sont plus belles que les bijoux. Bonne soirée, à demain.
C'est-à-dire, quand on est malade, évidemment, c'est très dur d'avoir un bon moral. Mais tout de même, même si il m'est arrivé de me laisser abattre un petit peu, immédiatement je reprenais le dessus en me disant non, c'est pas possible, je m'en sortirai, j'y arriverai. J'ai pas peur de la mort. J'y ai pensé, je l'ai accepté, ça avait dû arriver. Je pense que j'étais prête aussi. Quand elle arrivera, on le verra bien.
Je suis né passage de la bonne graine, j'en ai pris de la graine et pour longtemps. Je travaille comme un chien toute la semaine. Je vous jure que le patron, il est content. Mes amis se sont mis en colère. C'est pas bien malin ce que tu fais là. Bon, ce qu'ils font, mais toi tu exagères. Tu verras qu'un jour, tu le regretteras. Je m'en fous pas mal. Il peut m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal. J'ai mon dimanche qui est à moi. C'est peut-être banal. Ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. Je m'en fous. Il y a les bords de la Seine. Il y a l'avenue de l'Opéra. Il y a le bois de Vincennes. Quel beau dimanche on a là.
et puis à la balle qui vous plante des frissons partout. Il y a les étoiles qui sont plus belles que les bijoux. Il y a les beaux mâles qui vous embrassent dans le cou. Le reste après tout, je m'en fous. Ça fut par un de ces beaux dimanches que tout de long s'est mis à danser. De grands yeux noirs, de longues mains blanches. Alors je me suis laissé embrasser. Mes amis se sont mis en colère. Ce type-là c'est connu, il a pas de cœur. C'est un vanifié, un trait de misère. Il t'en fera voir de toutes les couleurs. Je m'en fous pas mal. Il peut m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal. J'ai mon amant qui est à moi. C'est peut-être banal, mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal.